Voici, les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont même pas plantés, mais pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre, qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Puis dans le Nouveau Testament, quelques versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux, les 6 premiers versets. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 6. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le conseil de l'Église a discerné qu'il serait opportun de revenir dans les leçons d'Institut biblique sur les fondements de notre foi. Et il a décidé que la première des séances qui serait consacrée à ce retour dans la réflexion et l'étude de la Bible sur les fondements de la foi serait un Institut biblique commun. C'est celui donc qui nous rassemble ce matin. Je précise simplement que par la suite, ce sera seulement le groupe qui restera dans cette salle Dieu voulant avec moi, qui continuera la série des études sur les fondements de la foi, mais les autres groupes, selon les disponibilités, auront lieu dans les lieux séparés, comme d'habitude dans nos cultes d'instituts bibliques. Au mois de novembre, le groupe de Mademoiselle Ruholt devra se réunir distinctement, et quand notre pasteur sera de nouveau disponible, son groupe aussi se réunira. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes réunis pour une première séance, et le sujet s'en imposait. Première page de la Bible, première ligne, premier mot, au commencement, Dieu. Et le credo, le symbole des apôtres, ce résumé traditionnel de la foi chrétienne, commence lui aussi par « Je crois en Dieu ». Il était impossible de contourner pour nous cette priorité aujourd'hui. Et il arrive pourtant que des chrétiens, et des chrétiens qui se disent chrétiens évangéliques, sautent par-dessus ce qui constitue le seuil de la foi, et qu'ils se mettent d'emblée à parler de Jésus-Christ, à parler de leur expérience chrétienne, alors qu'ils n'ont pas dit et même pensé quoi que ce soit au sujet de Dieu. Je me rappelle qu'au congrès pour l'évangélisation du monde qui s'est tenu à Lausanne, Francis Schaeffer, l'auteur de nombreux livres, vous l'avez peut-être déjà lu dans tel ou tel de ses ouvrages, rapportait qu'il avait rencontré des gens qui se disaient chrétiens, croyants, et qui doutaient de l'existence de Dieu. C'est une situation à laquelle il convient de remédier, et il est bon que nous puissions nous entretenir ce matin sur Dieu d'abord. Il est vrai que la tentation de sauter par-dessus peut se prévaloir d'un argument biblique en apparence et aussi d'une pensée qui n'est pas dépourvue de valeur. L'argument biblique, c'est que lorsqu'on prend le livre des Actes et que l'on voit quel discours tiennent les apôtres à leurs concitoyens, il arrive très souvent qu'ils ne parlent en effet que des événements associé à la venue de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et qu'il ne parle pas de Dieu. Et c'est pourquoi certains se disent, bien, nous n'avons pas spécialement à établir ce premier point. On tire une mauvaise conséquence d'un fait indubitable, un fait que le livre des Actes nous permet d'apprécier. C'est quand il parlait à leurs frères juifs, qui avaient été instruits pleinement, et Dieu, en quelque sorte, avait pris le soin de les instruire pendant des siècles, de l'existence et de la vérité de Dieu, que les apôtres pouvaient d'emblée parler de la mission de Jésus-Christ et du salut opéré par lui. Mais on observe bien que lorsqu'il s'adresse aux païens, dont les idées sur Dieu étaient toutes brouillées, on observe bien qu'il commence par la doctrine de Dieu. C'est ce qu'on voit au chapitre 14 du livre des Actes, et au chapitre 17, avec les discours de l'apôtre Paul. La cause particulière de tentation de négligence à l'égard du sujet Dieu, c'est cette pensée que ce qui compte au fond le plus, ce qui est décisif, ce n'est pas de croire que Dieu existe ou qu'il existe un Dieu. Après tout, plus de 60%, paraît-il, de nos concitoyens, des Français aujourd'hui, consultés par sondage, sont prêts à dire « oui, 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 il y a un Dieu ». Mais il n'a pas l'air de tenir grande place dans leur vie. Ce qui compte, c'est de savoir qui il est précisément et comment être réconcilié avec lui. C'est une pensée que je crois juste, et nous aurons l'occasion aujourd'hui et d'autres fois d'y revenir, mais je note que s'il n'y avait pas de Dieu, mais tout le reste s'écroulerait dans une poussière de non-sens. S'il y a un message plus précis et particulier et qui concerne le salut, qui concerne la connaissance personnelle de Dieu, c'est parce qu'il y a un Dieu. Et si nous passons en revue les fondements de notre foi, alors il convient que nous commencions effectivement par là. Alors j'ai trois points principaux. J'espère qu'il restera quelques moments aussi pour que nous ayons des questions et des réponses, des remarques des uns et des autres. Nous avons jusqu'à 12h30, hein, selon le schéma habituel de nos instituts bibliques. J'ai 3 points. D'abord, le sens de Dieu, puis Dieu est, et quel est Dieu ? Si vous préférez, le sens de Dieu, l'existence de Dieu, et la description qu'on peut faire de Dieu. Alors, le sens de Dieu, c'est un sous-titre qui peut s'entendre de deux manières, et je joue un peu sur ces deux manières. C'est le sens du mot Dieu, et puis aussi le sens qu'ont les humains qu'il y a un Dieu, la sensibilité dont ils sont doués à l'égard de la réalité que le mot lui-même désigne. Alors commençons par le sens du mot, c'est ce que j'étudie de manière principale dans cette première partie. Dans toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les races, toutes les époques, sauf récemment, dans notre Occident en tout cas, l'immense majorité des êtres humains a cru qu'existait un ou des dieux, et dans toutes les langues, on trouve des termes qui peuvent se traduire de cette façon en français, Dieu. Sans doute y a-t-il des petites nuances, les mots d'une langue à l'autre ne se correspondent jamais de manière parfaite, mais en pratique, il y a des équivalences, et on constate qu'il y a dans toutes les langues des termes qu'il est juste de traduire Dieu. Quels sont les traits qui sont associés à la notion de Dieu que l'on met en œuvre lorsque l'on prononce le mot Dieu? Je dirais dans tous les peuples, dans l'humanité, selon ses ressources naturelles. Puisque Dieu lui-même, dans sa parole, a jugé bon de reprendre ces mots. Le mot Dieu existait et il a accepté de s'en servir. Nous faisons bien d'essayer de cerner ce qui est la notion habituelle de Dieu ou la notion approximativement moyenne de Dieu chez tous les humains. Qu'est-ce que le mot divinité signifie ? Il y a 4 traits principaux et je vais essayer d'utiliser d'ailleurs quelques petits symboles. Je dessine très mal, mais je n'ai pas sollicité les services de Jacques Richard ou de Nicole Berger ou d'Esther Bach pour m'aider, alors tant pis, hein, vous pardonnerez. Mais je vais dessiner de petits symboles correspondants pour simplement que l'œil ait de l'oreille pour vous tous. Donc, premier élément associé à la notion de Dieu, la puissance. Je pense que dans tous les peuples, pratiquement, on peut dire que les dieux ou le dieu, ce sont les puissances déterminantes. Et je propose un symbole de foudre pour évoquer symboliquement cette puissance qui est attribuée à la divinité. Cela joue, semble-t-il, pour la langue hébraïque. Est-ce que c'est l'étymologie? Les spécialistes en disputent, mais en tout cas, il y a le même mot « el » qui est un des mots pour Dieu et qui signifie couramment la force. Il est employé aussi dans le sens de force, par exemple, dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, verset 29, et dans quelques autres passages. Il y a peut-être un jeu sur cette notion, bien qu'il s'agisse d'un autre mot, lorsqu'il est dit du Babylonien dans le livre d'Habacuc au chapitre 1er, « Sa force, voilà son Dieu !» C'est le premier trait, la puissance. Deuxième trait, c'est assez lié à la puissance, mais c'est la puissance de résister à l'ennemi suprême de l'humanité, devant lequel l'homme se sent si faible et se trouve finalement toujours vaincu, la mort. Les dieux, ce sont les immortels. Vous vous rappelez, on les appelle comme ça en mythologie grecque. On dit les immortels pour dire les dieux. Et la mort, c'est ce vers quoi le temps qui nous use nous fait aller. Tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. C'est C'est donc une puissance de victoire sur le temps, une souveraineté sur le temps qui caractérise aussi la divinité. La divinité est liée à l'éternité.
Et je propose ce symbole-là,
une ligne indéfinie et le symbole mathématique de l'infini. Deuxième trait caractéristique. Troisième trait qu'on observe dans beaucoup de religions, le mystère. La divinité a quelque chose d'invisible. Elle échappe à la prise des humains. Et la divinité, comme telle, à la fois attire et repousse. Elle fascine et elle fait trembler. Ce double mystère, on peut le représenter par deux flèches. Repousse et attire, comme on voudra. Le mystère devant lequel on frissonne, qui suscite la crainte, même la terreur, et, mais qui aussi revient toujours comme l'objet d'un désir profond. Et ces deux traits, on les trouve aussi associés à la notion biblique de Dieu. Dieu est celui devant qui on tremble, ceux qui tremblent à ma parole. Dieu est appelé la terreur d'Isaac. C'est un titre qui lui est donné en traduction littérale, c'est le mot pachad en hébreu. La terreur d'Isaac, et puis en même temps c'est celui vers lequel soupire le cœur de l'être humain. Celui dont Augustin disait, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Cette dualité qui marque le sacré, la divinité en général dans les représentations des hommes, est aussi reprise pour la notion biblique de Dieu. Et puis un quatrième élément, c'est le rôle de cause ou de source à l'égard des choses de notre vie, de notre expérience. C'est un trait qui est peut-être moins universel et c'est peu précis, mais je pense que, en général aussi, les dieux sont considérés comme à l'origine de la réalité telle que nous l'éprouvons. Alors j'essaye de dessiner quelque chose qui ressemble à une source, à un torrent qui sort d'une source, un torrent à fleuve, pour que vous compreniez le sens de ce petit dessin. Malgré la tendance populaire, qui a ses causes, dont nous pourrons peut-être un jour reparler, ou même tout à l'heure, malgré la tendance à multiplier les dieux, je pense qu'on peut dire que la réflexion a poussé les gens les plus sensibles, qui prenaient le temps de méditer, vers la pensée de l'unité du divin, l'unité de Dieu. Je pense qu'il est significatif que nulle part en dehors de la Bible, on y soit arrivé de manière pure et complète. Ce n'a pas été du 100%. Et en général, les religions ordinaires des humains ont été polythéistes, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de dieux. Mais il y a cependant, on le constate chez les sages, chez ceux dont l'œuvre a été préservée, qu'il y a eu reconnaissance que l'idée de Dieu tend vers la pensée de l'unique. Et en tout cas, cela est fermement associé à l'affirmation biblique de Dieu. La grande confession de foi, on l'appelle le témoignage dans la tradition juive, la grande confession de foi donnée à Israël, chapitre 6, verset 4 du Deutéronome, c'est « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, un !» Affirmation de l'unité et de l'unicité de Dieu. Et lorsque l'on reconnaît cette unicité, alors il y a des traits, ou que l'on tend vers elle, hein, puisque j'ai dit que les penseurs humains en général n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, mais il y a des traits qui caractérisent la divinité, qui mérite d'être mis en relief. Ils prolongent ceux que nous avons déjà vus, puis je ne vais pas avoir de petits dessins pour eux, mais il faut quand même les expliciter. Il y a d'abord l'infinie supériorité et ou intériorité. de ce Dieu. Dieu est celui qui est le très haut, au-delà, au-delà, au-delà. Ce qu'exprime aussi d'ailleurs la formule dans l'islam, elle est très belle en elle-même. Allah est plus grand, Akbar, plus grand, plus grand, plus grand, toujours plus grand qu'on ne peut penser. Cette suprême élévation caractérise un Dieu digne de ce nom. Un Dieu qui suscite le chamboulement de tout notre esprit, le renversement de toute autre chose en nous. Dieu plus grand. Dieu, selon la définition de saint Anselme de Canterbury, un des plus grands penseurs du Moyen-Âge, aux alentours de l'an 1100, Dieu est celui dont on ne peut pas concevoir de plus grand. Pas seulement le plus grand, celui dont on ne peut pas concevoir de plus grand. C'est l'extrême limite, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons retenir, cerner. Dieu plus grand, ce qui va avec le titre de Seigneur, qui est si caractéristique de la révélation biblique de Dieu. Le titre de Seigneur, il se trouve dans diverses religions, mais il est tout particulièrement utilisé pour Dieu dans la Bible. Le Dieu qui nous dépasse, qui est le souverain sous lequel nous sommes placés. Ça, c'est un premier trait. Alors j'ai dit supériorité et ou intériorité. La pensée qui va le plus loin, je crois, découvre que ce Dieu qui nous est infiniment supérieur, nous est aussi infiniment intérieur. Et en toute réalité, il est là. Il est le secret ultime de l'existence de quoi que ce soit. Et saint Augustin disait, il est le plus élevé que la plus haute cime de moi-même, et il m'est plus intérieur que le plus intime de moi-même. Je pense que ces traits-là vont ensemble. Alors, mais dans les religions, cela n'a pas été toujours très bien saisi, et vous en avez qui mettent l'accent sur l'élévation de ce Dieu au-dessus, infiniment au-dessus, et puis vous avez ceux qui mettent l'accent sur l'intériorité, et qui risquent à ce moment-là, mais j'anticipe un peu sur d'autres éléments, de confondre Dieu avec simplement l'âme du monde, la profondeur des choses. Ça, c'est un premier grand trait. Deuxième trait, et ils sont liés tous ces traits, la toute suffisance, la plénitude et encore l'absoluité. Il est l'absolu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme plus technique. Absolu veut dire au fond indépendant. Délié. Voilà le absolu. En latin, ça veut dire délié. Et ça veut dire qu'il n'est lié à rien. Qu'il ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Voilà ce que ça veut dire absolu. Toute autre réalité dépend précisément de lui. Mais lui est le délié, l'absolu, qui se suffit pleinement à lui-même, car s'il avait un besoin en dehors de lui-même, il serait lié. Il serait lié par ce besoin. Vous voyez, toute suffisance, toute plénitude, absolue, sont des éléments qui vont ensemble. Le terme d'absolu a été beaucoup utilisé par les philosophes, donc vous voyez qu'il s'agit d'une réflexion vers laquelle ils ont tendu. Mais c'est aussi une idée biblique, même si le mot n'est pas, je crois, employé dans nos traductions habituellement. Et il y a des passages qui soulignent très très fort que Dieu n'a pas besoin. Vous avez peut-être parfois des gens qui disent « Dieu a besoin de nous », etc. Je ne suis pas sûr que ce soit si biblique dit comme ça. Psaume 50, Dieu détrompe les Israélites qui croyaient qu'il avait besoin des sacrifices. Mais je n'ai pas besoin de... Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de vous le dire d'ailleurs. Tous les troupeaux, toutes les bêtes sur les collines sont à moi. Et dans son chapitre, dans son discours du chapitre 17 du livre des Actes, l'apôtre Paul dit clairement aux Athéniens qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'est pas servi par des mains humaines. Alors, si on peut dire qu'il a besoin de nous, il faut bien comprendre. C'est dans un sens second, c'est par amour. Comme des parents ont besoin de l'aide que leur tout-petit leur donne, hein, parce qu'ils l'aiment. Exactement comme ça. C'est un besoin d'amour. Mais Dieu, en lui-même, n'a besoin de rien ni de personne. Il est absolu. Tout est de lui, par lui et donc pour lui. Et puis, troisième élément, associé à cette divinité, la valeur, le maximum de valeur. Il est digne de recevoir toute la louange, cette espèce de prosternement du fond de l'être qui s'appelle adoration. Ça, c'est de nouveau un trait, oui, dans l'ordre du bien. Il est le bien. Et c'est ce que Jésus a rappelé au jeune homme riche. Un seul est bon. Tu emploies le mot bien, bon, comme ça, de manière un peu superficielle, mais rends-toi compte, un seul est bon. Alors Jésus n'était pas en train de dire qu'il n'était pas bon lui-même. Vous pouvez relire au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu en disant ça. Mais il était en train de faire prendre conscience au jeune homme qu'il ne pouvait être vraiment bon qu'en étant Dieu lui-même venu jusqu'à lui, pouvant exiger alors le sacrifice de toute la vie. Toi, viens et suis-moi. Dieu est bon. Toutes les valeurs que nous pouvons apprécier atteignent leur degré suprême, plein en lui. C'est le troisième trait. Alors, je souligne, parce que ça m'a frappé, que dans les religions païennes polythéistes, c'est loin d'être le cas. Ce trait-là est l'un de ceux qui se trouve le plus défiguré de la divinité, du fait d'être Dieu. Dans un livre par un spécialiste d'anthropologie et d'ethnopsychiatrie, Georges Devereux, de l'angoisse à la méthode dans les sciences, dans ce livre, il rapporte que dans une population qu'il a étudiée, en Indochine, les Sédangs méprisent et haïssent leur dieu. Ce sont des dieux méchants, des dieux mesquins, des dieux... Ils les considèrent comme tels et en même temps ce sont leurs dieux. Et donc ils sont obligés de leur rendre un culte. Une situation vraiment bizarre et qui montre quel est le degré d'aberration que dans l'ignorance du vrai dieu, les humains peuvent connaître. Mais si nous revenons à une idée plus biblique de Dieu, que signifie être Dieu, alors je crois que nous devons dire que c'est aussi la totalité de la valeur qui est associée à la notion de Dieu. Alors le sens qu'un tel Dieu est là, c'est la sensibilité à la réalité de cet absolu, semble fort répandu dans l'humanité, et je crois que nous pouvons aller jusqu'à dire qu'il est implanté par le Créateur dans le cœur humain. C'est ce qu'affirmait Calvin, qui parlait de sens de la divinité chez tout homme. Cela prend des formes extrêmement diverses, ça peut être plus intellectuel, ça peut être plus affectif. Pour le moment, ce que je souligne, avant de passer au deuxième point, c'est que ce sens existe aussi chez l'athée. Il a un certain sens de ce Dieu pour le refuser, pour nier, pour dire ce que mon intelligence me propose avec la notion de Dieu, finalement c'est un leurre, c'est une illusion que je dois combattre. Mais le sens est là. La notion de Dieu n'est pas radicalement absente. Et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler que l'espèce d'abrutissement dans lequel les médias ont un grand rôle aujourd'hui fait que nous rencontrons beaucoup de gens chez qui ce sens est presque anesthésié. Il y a une telle indigence de vie spirituelle, intellectuelle, une telle déculturation, un tel abrutissement par les divertissements de toutes sortes, que des gens peuvent avoir l'impression que non, ils n'ont aucun sens de Dieu. Je pense qu'il est toujours là quand même. Il est là, latent, comme recouvert. Mais nous pouvons avoir l'impression, quand nous conversons, qu'il y a des gens qui n'ont absolument aucun sens de Dieu. Alors il est important de noter que si on prend des représentants disons, plus autorisées des démarches de l'esprit humain, même athée, on ne trouve pas ça. Chez les athées, on trouve ce sens de Dieu très présent. Ils luttent avec. Ils sont obligés de le réprimer et de le dénoncer, mais il est là. Et par rapport à ce que nous rencontrons parfois, c'est peut-être intéressant pour nous de le noter. Mais il est sûr que ce sens de Dieu ne suffit pas pour affirmer que Dieu est. Car ce sens de Dieu peut être récusé, comme il l'est par les athées. Et pire encore, peut-être, ce sens de Dieu peut être dévoyé, comme la Bible alors elle-même le dénonce à propos de l'idolâtrie. Car qu'est-ce que l'idolâtrie, au sens biblique? C'est le report du sens de Dieu, avec certains des éléments que je vous ai dit, sur les créatures. D'après le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, l'être humain, pour ne pas rendre au Dieu dont il a le sens en lui, la vérité de Dieu, il ne peut y échapper, au lieu du Créateur, se tourne vers la créature. Et c'est ainsi qu'il construit toutes ses idoles. Alors il ne suffit pas de dire « il y a le sens de Dieu partout », il faut chercher à montrer comment l'affirmation que Dieu est tient en effet, qu'il y a vérité, que la notion s'applique à un être réel. Alors on peut dire « Dieu existe », les philosophes ont parfois fait une différence entre être et exister. Alors, notons que le mot biblique, c'est il est. Il est. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Dans l'original, c'est pas un autre, c'est le mot, c'est le verbe être, simplement, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Et l'affirmation sur l'être de Dieu est une des grandes affirmations de la Bible, comme vous le savez. Lorsque Dieu se révèle plus particulièrement à Moïse, dont il va faire le grand instrument de délivrance, il lui révèle son nom comme « Je suis ». Je suis ce que je suis, ou je suis celui qui est. Et puis, plus brièvement encore, « Je suis ». C'est ce que, sur le papier qui a été remis, je n'en suis pas responsable, mais ça a été très bien fait, vous avez pu repérer. Ça, c'est ce qui est rendu dans nos Bibles les plus courantes par l'Éternel, que la tradition juive et la tradition chrétienne ont rendu plutôt le Seigneur. On le prononçait sans doute Yahvé. Et c'est une paraphrase de la signification de ce nom, le nom propre en quelque sorte, de Dieu qui se révèle à Moïse, que le Seigneur lui-même donne en disant « Je suis, je suis ». Car ce nom est rapproché du verbe « être » en hébreu, une forme du verbe « être ». Et donc on peut considérer qu'il est équivalent de « je suis ». C'est ce qui est écrit à la ligne en dessous, en grec, ego eimi, et puis ensuite en français, alors là tout le monde sait lire. la traduction donc, et c'est la traduction de « je suis », en quelque sorte paraphrase, explication de son nom, Yahvé l'Éternel, le Seigneur, par Dieu lui-même, à Moïse, mettant l'accent sur son être, je pense tout spécialement, par contraste avec les dieux des nations qui ne sont pas. Par nature, ils ne sont pas, dit Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 4. Ce sont des constructions de l'esprit humain, ce sont des fantasmes, ce sont des réalisations creuses de l'imagination des hommes qui tirent toute leur réalité comme des sangsues de ce qu'ils sucent de l'énergie humaine. Un seul est vraiment. C'est le Dieu qui se révèle. Donc, accent sur l'être de Dieu qui existe réellement et peut ainsi être vraiment un secours au moment de la détresse. Alors comment le vérifier? Comment donner preuve? La vérification se fait d'une manière tout à fait particulière. Non pas que la preuve en soit trop restreinte ou limitée, mais au contraire, parce que la preuve en est tellement abondante, tellement englobante, que finalement, on ne sait pas où commencer, et en un sens, on ne peut pas dire, voilà, je suis sûr d'une chose, alors à partir de là, je vais demander, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? Et si on est lucide, on se rend compte qu'on ne peut être sûr de rien si Dieu n'existe pas. C'est une illusion d'optique de s'imaginer qu'on a de véritables certitudes, parce que c'est l'existence de Dieu qui seul donne sens au reste, donne cohérence au reste. Autrement, c'est une poussière, c'est un chaos. Et c'est pourquoi on ne peut pas trouver Dieu en partant d'un point qu'on aurait déjà acquis, nous sommes d'accord là-dessus, puis ensuite on trouve. Mais non, c'est partout que son témoignage rayonne et englobe l'existence humaine. Deux images à ce propos. C'est comme la lumière. Pour voir la lumière, nous avons besoin de la lumière. Oui. Et c'est ce que dit le psaume 36, dans ta lumière, nous voyons la lumière. On ne peut pas prétendre voir Dieu à partir d'un autre éclairage. Il est la lumière. Oui. Et puis deuxième image, je la dois au théologien réformé Auguste Le Cerf, auquel je dois beaucoup de choses d'ailleurs, disait, ceux qui nient Dieu, c'est comme les solipsistes. Alors vous ne savez sans doute pas, je pense, la plupart, ce qu'est un solipsiste. Il y en a eu, des philosophes qui prétendent que le monde n'existe pas. Les philosophes, ils sont capables de grandes choses, vous savez, et vous avez donc un courant de philosophie qui disent, finalement, le monde n'existe pas. Tout ce que je connais, je le connais dans mon propre esprit, donc je ne peux jamais sortir de mon propre esprit dans la connaissance, donc finalement, je dois dire que tout n'est que théâtre d'images que je me joue. Il n'y a que moi, et tout. Le monde n'existe pas. Ah, comment le réfuter, celui-là? Comment lui prouver le contraire? Impossible. C'est la même chose avec celui qui nie Dieu. C'est comme celui qui nie le monde, disait Le Cerf. Je crois que la perception est très juste. Mais, cela dit, il y a quand même des lignes de force de ce témoignage qui nous englobe, qui peuvent être mises en valeur et qui nous aident à saisir que, oui, Dieu est. Alors, je fais mon petit dessin. Je représente en quelque sorte Dieu solairement, le rayonnement de sa gloire, la création matérielle, et puis l'homme, image de Dieu. Première ligne de force, les exigences d'une certaine causalité. Cet univers avec son ordre, que je représente par ces signes-là, les traces d'intelligence, l'incroyable agencement de ce monde que nous sommes capables d'apprécier. C'est ce que Voltaire même, était obligé de reconnaître. Il disait, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Si quelqu'un tombe sur une plage en se promenant sur une montre, il ne va pas penser que c'est par hasard qu'un coquillage s'est transformé tout seul en montre, n'est-ce pas? S'il y a une montre, il y a quelqu'un qui a fabriqué la montre. Il y a une telle manifestation d'intelligence constructive dans les rouages d'une montre qu'on dit il y a une intelligence derrière qui a causé. De même avec le monde. Il y a un témoignage absolument extraordinaire que l'homme, par l'intelligence, réussisse à concevoir des schémas tout à fait indépendamment de son expérience, juste par la pensée, et que ensuite ça colle avec ce qu'on trouve dans le monde. C'est comme ça que la science progresse. Et même parfois, il y a eu des théories de...
qui paraissait complètement irréaliste, éloigné de toute réalité, en mathématiques au XIXe siècle par exemple, qui se sont trouvés avoir leur application à certains niveaux de la réalité du monde aujourd'hui. C'est des rencontres extraordinaires. Alors on ne peut pas dire, c'est simplement parce que l'homme fait partie de cet ensemble. Non, c'est indépendamment de son expérience des ordonnances du monde visible qu'il conçoit des choses par son intelligence seulement et que ça colle. Alors comment se fait-il que ce soit dans l'intelligence de l'homme et dans la réalité que l'homme n'a pas faite à la fois? C'est un témoignage de dépendance à l'égard d'une origine intelligente supérieure. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, la correspondance avec le dépassement humain du monde. L'homme a le sens du bien, du vrai, de l'éternité. Or, cela le fait dépasser le monde. Ce n'est pas dans le monde qu'il trouve ces choses. C'est une façon de jaillir hors du monde. C'est ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Il a mis l'éternité dans leur cœur. Alors même qu'il baigne dans le temps, il sort comme celui qui nage à la tête hors de l'eau. Il s'élève au-dessus du monde. Et il est en rapport avec un Dieu au-dessus du monde. Une chose que Descartes, vous voyez, je cite des grands hommes de l'histoire intellectuelle française. Descartes avait bien vu en disant « L'idée de parfait, elle est dans mon esprit. Et d'où peut-elle venir? Elle ne peut pas venir de moi, je ne suis pas parfait. Elle ne peut pas venir du monde, il n'est pas parfait. Il faut qu'il y ait Dieu. » C'est une de ses preuves de Dieu. Et puis troisième grande ligne, alors là c'est la grande ligne sans doute, les manifestations spéciales de Dieu dans l'histoire, où il nous fait lui-même signe. Ça, en un sens, c'est le plus fort, parce que Dieu le fait exprès pour que nous le discernions. Ce n'est pas le rapport qui est toujours entre lui et le monde, c'est quelque chose de particulier, justement, pour le signifier. Il y a les miracles, qui sont appelés des signes. Il y a les prophéties, qui sont miraculeuses, dire ce qui va arriver longtemps à l'avance. Il y a les concordances dans les séries d'événements qui échappent à tout calcul de probabilité. Et puis il y a Jésus. Jésus.
On pourrait jouer sur les mots, sur
les lettres françaises, ça ne joue qu'en français, bien sûr, ça.
Dire Jésus, voilà la preuve que je suis.
C'est de cette manière que le Seigneur, sans doute, démontre dans l'histoire de la manière la plus éclatante. Parce qu'est Jésus? Rien déjà que sa beauté, et mais aussi ses œuvres et sa résurrection, qu'il est vraiment. Alors de cela, nous parlerons beaucoup plus en détail dans des séances à venir, donc je ne développe pas maintenant. Je pose juste une question, très brièvement. Que dire de l'expérience qu'on appelle parfois mystique, une expérience immédiate de Dieu? Elle peut avoir des formes plus ou moins extraordinaires, mais qu'en dire? Je pense que la première chose à en dire, c'est que c'est une réalité. Que la Bible nous dit, vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est une réalité par l'œuvre de l'Esprit en nous, et nous pouvons donc en parler. Deuxièmement, parler ce langage attirera beaucoup nos contemporains. L'épreuve classique que je viens d'évoquer à ma manière, l'épreuve classique ne les touche pas beaucoup. Elles sont bonnes, mais nos contemporains ne semblent pas en être très touchés. Mais si on leur présente une preuve expérimentale un peu mystérieuse, ça les incite. Et nous pouvons en jouer jusqu'à un certain point. En faisant attention cependant, parce que troisième point, les dérapages sont faciles. Ce n'est en tout cas pas l'intensité de l'expérience qui la valide, qui marque sa vérité. Parce qu'il y a aussi des expériences intenses avec les drogues, avec les démons, dans toutes les religions. Donc, ça ne valide pas la vérité. Mais, associé à tout le reste, cela peut être aussi évoqué. Et peut nous servir à nous, intimement, de confirmation dans la certitude de la foi. Alors, ces éléments donnés à propos de la preuve, quelques mots seulement, sur la description qu'on peut faire de Dieu. Nous allons y revenir forcément, c'est finalement tout le contenu de la Bible. Donc, il n'est pas nécessaire d'en parler longuement maintenant. Mais je soulignerai trois points. Le premier, c'est la distinction entre Dieu et le monde, que le schéma ici implique. La plus grande tentation, ce n'est pas l'athéisme, parce que nous sommes attirés. Alors la première chose à souligner, c'est cette élévation, cette distinction entre Dieu et le monde, qui fait aussi que l'homme, qui est en communion avec Dieu, par création, même si cette communion est altérée par son péché, que l'homme ne tombe pas sous l'esclavage des éléments du monde. C'est parce que Dieu est supérieur au monde et distinct du monde que l'homme n'est pas simplement un rouage de la machine du monde. Deuxième affirmation, ce Dieu infini est personnel. Voilà comment il se révèle. Et justement parce qu'il n'est pas le tout du monde, le monde est impersonnel. S'il était le fond du monde, il serait au bout du compte impersonnel. Mais il est personnel. C'est un visage.
Un visage que nous rencontrons.
Un triple visage même. Et qui se révèle par Jésus-Christ. Mais le caractère personnel de notre soleil spirituel, Dieu, c'est la révélation, je dirais, plus particulière que nous fait la Bible. Et c'est parce que Dieu est personnel que c'est la personne qui est le sommet dans la création même. Sinon, ce serait l'impersonnel qui, comme un rouleau compresseur, écraserait tout. Et puis, troisième trait, ce Dieu personnel et infini à la fois est bonté. Bonté pure et mystérieuse. C'est le maximum de la valeur dont je parlais tout à l'heure que les païens n'ont pas connu. Mais en Dieu, la sainteté, la justice et l'amour sont un. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous aussi, à un culte qui corresponde à la loi morale, c'est-à-dire à l'expression de sa justice et de sa bonté. Voilà les grandes lignes que nous pouvons retenir aujourd'hui. C'est un tel Dieu qui permet qu'il y ait bonne nouvelle, qui permet qu'il y ait évangile. Nous avons quelques minutes pour deux ou trois questions, si vous souhaitez en poser. Monsieur Berger.
Si je n'étais pas chrétien, je me poserais la question, quel genre de Dieu j'accepterais d'adorer? Et en lisant la Bible, je me suis dit, il a tous les attributs pour ça.
Amen. Voilà, c'est pas une question, c'est une confession de foi supplémentaire. Monsieur Weyenberg.
Mais il me paraît que nous avons des attributs à notre Dieu qui est tout à fait essentiel. D'ailleurs, plus que l'attribut, c'est l'ami.
Oui, alors j'ai prononcé le mot vers la fin. Je n'ai pas explicité. Je ne l'ai pas fait parce que le sujet est justement tellement important, tellement central et s'illustre par toute la Bible. Pour le moment, je crois que ce que je dirais, c'est que, en effet, c'est la révélation suprême peut-être que Dieu est amour, mais qu'il ne faut surtout pas renverser en disant « alors l'amour est Dieu ». Avec cette pensée que notre idée de l'amour, alors, nous allons pouvoir l'appliquer et nous opposer à la révélation dans la Bible à propos de Dieu en disant « nous savons ce que c'est l'amour ». Non, nous ne savons pas. Et nous apprenons par toute l'œuvre de Dieu ce qu'est l'amour. Oui Alors, c'est sur l'expression « le bon Dieu » que porte cette remarque, question. L'expression en elle-même est magnifique. Un seul est bon, il est le Dieu bon, pleinement. Mais c'est vrai que en français, le mot a fini par former comme un seul terme, le bon Dieu, et avec des connotations qui ne sont pas celles du Dieu biblique. On ne pense plus au mot qui constitue vraiment la formule, et ça devient un Dieu commode, un Dieu qu'on met dans sa poche, un Dieu un peu gâteux par moments. Effectivement, les connotations de l'expression, par suite de l'usage qui a été courant en français, ne sont pas celles du Dieu dont nous avons parlé. Mais, oui, okay, Christian. Je pense qu'en effet, il y a une relation étroite et précieuse entre la création et l'amour. Je pense que la création démontre la puissance, démontre la sagesse de Dieu, mais elle démontre suprêmement son amour. Il est amour, c'est par amour qu'il a créé. Cela dit, il ne faudrait pas s'en tenir à la création pour illustrer ce qu'est l'amour de Dieu, et il ne faudrait pas non plus oublier que Dieu n'a pas besoin de la création même pour être amour. C'est pourquoi il n'y a pas une seule personne en Dieu, mais le Père, le Fils et l'Esprit, parce que précisément il est amour de toute éternité, dès avant toute création. Voilà, je pense que... Oui, c'est un peu ce que j'avais à l'esprit en disant que le motif de la création semble avoir été de sa part l'amour. Je vous invite à clore notre culte en chantant le cantique 89 ensemble. Il y a une strophe, cantique 89. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.